Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Excusez-moi de rester un petit peu assis, position semi-assise, mais je ne suis pas sûr de tenir très longtemps debout. En tout cas, merci pour vos prières, votre accompagnement, votre soutien, votre affection. Je pourrais dire votre amour, mais il y a des fois où le mot affection est presque plus fort que le mot amour. Tant ce mot est devenu un peu vague, un peu galvaudé, mais merci pour votre soutien qui a été avec moi tout au long de ces semaines. J'ai été hospitalisé à deux reprises, de manière urgente à chaque fois. La dernière fois, le dimanche soir, je parlais avec quelqu'un au téléphone. J'étais très fatigué et un médecin m'avait dit, il faut sortir, il faut bouger, etc. Et bah, j'ai obéi, je suis un homme très obéissant, donc j'ai obéi. J'étais tellement fatigué, épuisé intérieurement, je dis, bon, je vais y aller. Et puis, en cours de route, j'ai un appel téléphonique avec quelqu'un, voilà, où nous cheminons ensemble. Et pendant une heure, j'ai pas vu le temps passer. Pendant une heure, j'ai marché en parlant, en discutant, et ça m'a fait du bien. Vous savez, les échanges fraternels, c'est jamais à sens unique. Je suis rentré chez moi complètement épuisé, mais tellement content de ce que j'avais pu partager. Partager la foi en Jésus-Christ ensemble, c'est quelque chose de génial. Après, ça s'est un peu compliqué. Dans la nuit, j'ai été pris de crise. À 8h du matin, je suis quand même allé travailler. Le garçon un peu obtus, vous savez. C'est comme ça que ma femme me le voit parfois, et elle n'a pas tout à fait tort. Et puis j'ai tenu une heure, et puis au bout d'une heure, direction les urgences. Les temps d'hospitalisation, c'est quelque chose de particulier. On est soi face à sa douleur, à sa souffrance. Et puis quand la souffrance nous laisse un petit peu tranquille, parce qu'on a beau dire, mais quand on souffre, il est difficile de trouver une fenêtre pour élever son regard. Ça, c'est ceux qui ne souffrent pas, qui ont cette incitation. Hein, vous le connaissez, vous le comprenez vous-même. Quand on est dans la souffrance, dire à quelqu'un, mais lève tes yeux vers le Seigneur, fais-lui confiance. Oui, ben, la confiance, elle est là, mais je souffre et j'ai mal. Donc l'hospitalisation, pour moi, tout au long de ces deux derniers mois, ça a été ça. Et puis, il y a les moments où la douleur s'efface, laisse la place à l'attente d'aller mieux. Et c'est vrai que j'ai eu des moments des moments étonnants, à la fois de relation avec Dieu, mais aussi des moments étonnants de découverte ou de redécouverte de certaines choses. J'aime pas trop les cultes télévisés. Je suis pas un fan, moi. Je sais que certains aiment bien, et puis sur Internet. Moi, je me sens pas très à l'aise. Mais bon, allongé sur un lit d'hôpital avec juste une télécommande pour se... comme moyen d'évasion, un dimanche matin, j'ai mis le culte protestant à 10h en me disant, bon, bah, je préférerais être à Kevin. Je me sens tellement bien ici, dans votre église. Mais là, j'ai dit, bon, je vais. Et puis, quand la célébration catholique s'est arrêtée, que l'affiche du culte protestant est arrivée, je me suis préparé, je me disais, bon, l'image suivante, ça va être, connaissant la technique, une église rassemblée dans un lieu avec le pasteur, avec les chants de louanges, quelques lectures, tout ça bien chronométré, bien cintré, etc. Et donc, je m'étais psychologiquement préparé. C'est un court témoignage avant de partager la parole. Et puis, une fois que présence protestante s'est effacée, l'écran a laissé place. Un Groenlandais sur son bateau en train de chasser les mouettes au fusil. Paysage étrange, de glace, d'eau, de froid. Et puis, on le voit ensuite parler simplement de sa vie, de ce qu'il faisait là. Ensuite, on l'a suivi redescendant du bateau, rentrant chez lui, parlant de sa famille, parlant de ce qu'il vivait. Et pendant une demi-heure, j'ai suivi cet homme. Et c'est un témoignage, c'est un des plus beaux témoignages que j'ai peut-être vu en film, cet homme, ce Groenlandais, a parlé de son enfance, de sa vie, de sa famille. On le voyait simplement manger avec sa femme, ses enfants, et on découvrait pas après pas, mais sans témoignage ostentatoire, de tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait abîmé, comment il avait sombré, comme au Groenland, bien souvent, dans l'alcool et la drogue. Mais non, pas dans un témoignage qui se voulait outrancier, simplement il parlait de lui. Ils s'étaient mariés, ils avaient eu une fille, et sa femme s'était convertie. Elle avait trouvé en Christ vraiment une réponse à ses besoins, à ses attentes, dans un contexte familial difficile, puisque lui était toujours dans l'alcool, la drogue, très souvent absent. Et puis à un moment donné, ils ont décidé de se séparer. Et au moment où il a fait sa valise, sa femme s'est approchée là, ce soir-là, et elle a déposé dans sa valise une Bible. Elle lui a dit, tu sais, c'est seulement, je pense, dans ce livre-là que tu trouveras la réponse à tout ce que tu es, à tout ce que tu as vécu. Il n'a rien dit, il a fermé sa valise et il est parti. Elle a continué pendant 2-3 ans à sombrer. Et il raconte tout ce qu'il a vécu, l'horreur absolue, les violences, l'inceste qu'il a subi par rapport à son beau-père, l'abandon. Il parlait en toute simplicité de tout ça, jusqu'au jour où cette fameuse Bible, il l'a ouverte. Et là, il raconte tout aussi simplement comment Dieu l'a reconstruit, l'a guéri. Aujourd'hui, il est un des piliers de l'église où il se trouve, où il vit au Groenland. J'étais étonné parce que, non pas que j'ai trouvé que c'était un beau témoignage, ce témoignage m'a parlé dans ce que j'ai moi-même vécu dans ma vie. Et j'ai été bouleversé, je crois, je veux dire ce mot-là, et c'est pas. J'étais bouleversé par cette relation avec Dieu qui s'est construite en toute simplicité. Et quand j'ai regardé la fin de ce film, de ce témoignage, je me suis rendu compte que ce film qui s'appelle Arctic Light avait été fait par Jeunesse en Mission. Et j'étais étonné. Et je vous invite, si vous avez envie là aussi d'écouter, de voir un témoignage profond et vrai, d'aller regarder, j'en ai parlé déjà avec des amis qui ont regardé ce témoignage et qui ont trouvé aussi la richesse du salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors, si jamais c'est dans Présence Protestante, en replay, vous devez le trouver, Arctic Light. Ça a été pour moi, en tout cas sur mon lit d'hôpital, un temps où Dieu m'a rencontré. Voilà, donc je voulais juste vous en parler. Et puis il y a eu ensuite, c'est long l'hôpital, c'est long. 6 jours sans manger, c'est très long. Tu verras, Jean, 6 jours. Je sais pas si parce que c'est un bon mangeur, Jean. Donc on sent que. Mais j'ai pensé à toi souvent. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il ferait, Jean, avec un bouillon de légumes. Quand il dit bouillon de légumes, c'est un légume qui a traversé l'eau en courant. Et puis on vous sert l'eau après. J'ai pensé à toi, vraiment. 6 jours sans manger. Oh, c'était pas si dur que ça, finalement, puisqu'on était tellement dans le soin que. Et puis j'ai pris ma Bible et j'ai relu à la fois sur mon téléphone, parce que je ne l'avais pas avec moi, mais je l'ai relu à la maison aussi, puisque j'ai une semaine d'arrêt. Et comme je fais souvent en vacances, je me dis, mais tiens, ce serait peut-être l'occasion de relire un texte. Et je suis arrivé à relire l'Épître aux Galates. Et j'avais envie ce matin de reparcourir l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est une épître très particulière. Épître de Paul, qui dans son premier voyage missionnaire est allé fonder des églises, notamment dans la province de Galatie, et vers l'an 54 à peu près, et il a évangélisé cette province, et ensuite il y est retourné une deuxième fois, puis une troisième fois. Et l'Épître aux Galates, en fait, tient une place très particulière dans les Épîtres. On dit que c'est la plus ancienne des 4 Épîtres principales ou grandes Épîtres que l'on a dans l'Évangile, Les quatre grandes épîtres, c'est Galates, Romains et 1 et 2 Corinthiens. On dit que ce sont les quatre grandes épîtres. C'est un ton assez particulier. Moi, c'est toujours une épître qui m'a beaucoup marqué. Et le thème principal de l'épître aux Galates, c'est le rapport entre la loi et la grâce. Et j'ai été frappé dans ma lecture et la méditation de ce texte-là sur ces dernières semaines sur l'importance de ce thème qui n'est pas pour Paul un thème qui est choisi pour discourir sur des points de théologie. Pas du tout. Lorsque Paul s'adresse aux Galates, il le fait parce que cette question-là porte sur les préoccupations réelles et concrètes des croyants de ces églises qui viennent de naître. Alors quand je lisais, je me disais, ça revenait, j'ai eu des cours au collège biblique sur l'épître aux Galates, sur Romains, sur Corinthiens, et ça réactivait tout mon, voilà, tous ces temps où j'ai appris à comprendre théologiquement, doctrinalement, ce que c'était que la loi et la grâce. Et parfois je me disais, en leur disant, mais tout ça, je sais, je sais. Et c'est vrai que ces pauvres Galates, ils avaient bien besoin que l'apôtre Paul les exhorte à se recentrer sur le fait qu'ils étaient passés de la loi à la grâce. Et tout en lisant cette épître aux Galates, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de la parole de Dieu bien souvent, en pensant que ces choses-là sont des choses qui étaient historiquement nécessaires pour les chrétiens de Galatie, mais que nous, bien évidemment, issus de la réforme où la grâce et la foi en Jésus-Christ sont au centre de nos croyances, ben finalement, on est un petit peu moins concerné quand même. Les fondements de l'Évangile sont depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle. J'en parlais dans des temps qu'on a partagé avec Hervé pendant quelques années sur la place de la loi et de la grâce. Et comment l'Église, au fur et à mesure des siècles, dès le 2e siècle, a dû combattre contre des doctrines qui remettaient en cause les fondements essentiels que sont la foi et la grâce. On le voit dans l'épître aux Galates, on y reviendra dans un instant, sur l'apôtre Pierre. Formidable cet homme. Mais dans l'épître aux Galates, Paul reprend Pierre sur le fait qu'il vivait dans la grâce quand ça l'arrangeait, et quand il n'était pas confronté aux autres juifs, mais dès que des juifs revenaient avec un regard légaliste, eh bien, il glissait, se séparait des païens et adoptait un comportement qui devait être acceptable au regard de la loi. Dès le 1er siècle. Pourtant, l'apôtre Pierre avait de quoi comprendre ce que c'était que la grâce, que la foi. C'est lui qui a proclamé Jésus qui posait la question « Qui dites-vous que je suis ?» qui a dit « Tu es le Christ. » Et pourtant, tout n'était pas encore bien posé. Paul a déposé lors de son premier voyage missionnaire l'évangile de la grâce en Christ qui s'obtient par la foi seul. Mais après son voyage, certains autres missionnaires, qui ne sont pas tous identifiables, hein, mais il y a certains missionnaires qui sont venus, à leur tour, annoncer un contre-message, selon lequel l'Évangile ne résulte pas de la grâce, mais du mérite dû à l'observation et au respect de la loi, allant jusqu'à suggérer que la circoncision devait être observée. Est-ce qu'on est concerné par ce message? Est-ce que nous nous mettons, nous aussi, sous le régime de la loi? Et en relisant cela à l'hôpital, je me suis dit, mais Seigneur, si je regarde mon passé, mon parcours, combien de fois ai-je pris conscience que je me mettais sous des lois, des obligations, qui sont liées à mon passé, à mon histoire, qui sont liées à ma conception de ce qui est juste et bon? Je suis l'aîné de 8 enfants. Je peux vous assurer que ma mère, elle a su construire en moi des obligations. Tu dois, il faut. Je ne sais pas si ici à Kevin, vous l'avez remarqué, mais quand nous partageons, quand quelqu'un vient nous voir, quand nous échangeons ensemble, nous n'imposons pas de loi, y compris dans des domaines très personnels que sont les vies de couple, vie familiale et autres, alors qu'il est si facile de dire « mais tu sais la parole ». Elle dit ça, il faut que, tu dois, c'est obligatoire. Tu veux être chrétien, tu veux prendre ton baptême, alors il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu pries une fois tous les jours, il faut que tu respectes les commandements liés à l'amour, à l'Église, etc. Ce sont des lois que nous nous faisons. Et quand je lisais cela, je me dis, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment différent des Galates ? Toutes les fois où tu m'as rappelé que je me fabriquais des lois qui devenaient des justificatifs pour être chrétien, pour être un bon frère, pour être un bon pasteur. Même au collège biblique, quand nous y étions avec Michel, Catherine, Francine, même au collège biblique, vous savez, on nous a conduits, mais nous nous sommes fabriqués des images de « il faut que ». Nous devons. Et quand le Seigneur nous corrigeait, nous rappelait que nous étions en train de passer sous des lois, ce n'était pas toujours facile à accepter. Ces derniers temps, en lisant les Galates, j'ai réalisé aussi que ce que nous allons pêcher sur Internet, dans les autres églises, dans d'autres mouvements, ce sont parfois des messages qui sont là pour dire « vous devez, il faut ». Si vous voulez être un bon chrétien, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez guérir, voilà ce qu'il faut faire quand vous êtes malade. J'ai eu ce type de conseils. Je les reçois, je ne vais pas réagir, mais je suis très prudent quand, pour guérir, il faut que tu fasses ça. Ça m'a été dit à plusieurs reprises. Il faut que... Bon, je le reçois, je l'entends. Mais ce qui m'importe, moi, c'est comment, dans ma maladie, je peux vivre la grâce de Dieu. La confiance en lui. Quelque chose qui est gratuit et qui n'est pas de l'ordre de « il faut ». Tu dois. J'ai, au fil de ces dernières années, était confronté à cette réalité de la place d'Internet où il y a des mouvements qui se lèvent, qui se créent. Et quand on va un tant soit peu gratter derrière, on s'aperçoit que la conception, c'est une remise en cause de la grâce. Avec des obligations à obéir, faire, agir. Lorsque Paul s'adresse aux Galates, il leur dit ceci au chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Quand je lisais ce passage à l'hôpital, je me disais, mais est-ce qu'il y a un autre évangile ? En fait, nous pouvons, au verset suivant, l'apôtre Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, une autre bonne nouvelle, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et en fait, il n'y a pas d'autre évangile que celui de Jésus-Christ, qui est un évangile où le salut est donné par grâce. Mais il y a des gens qui peuvent nous troubler dans notre marche en nous disant, si tu veux aller bien, si tu veux trouver le chemin du salut, il faut que... Et c'est là qu'il y a une proposition d'un nouvel évangile, une autre bonne nouvelle. Alors me direz-vous, mais pourquoi allons-nous ? Est-ce que je vais ? Parce que ça m'est arrivé aussi de croire que certains comportements, manières de faire, etc., pouvaient être la solution et la réponse plutôt que la grâce d'être dans la relation avec Christ par la croix qui a été plantée à Golgotha. Eh bien, parce que nous sommes toujours dans la tentation de vouloir choisir des chemins qui sont en dehors de la relation, mais qui sont dans le faire. Si je fais cela, voilà, Ça ne vous rappelle rien ? Cette attitude ou ce rapport à un autre évangile qui serait celui de la grâce, c'est celui du jardin d'Éden. Si tu manges de ce fruit, voilà ce qui va arriver. C'est un raccourci. Un raccourci qui évite de se plonger dans la relation. Plonger, il y a un petit cœur qui dit, dans le fleuve de la grâce. C'est tellement plus facile. Alors je vais dire, croquer dans la pomme, même si on savait pas, on ne sait pas si c'était une pomme, hein. Mais croquer dans le... C'est un chemin raccourci. Alors qu'au jardin d'Éden, la proposition de Dieu, c'est cultivons notre relation tous les deux. Pour que tu saches ce qui est bon pour toi. Alors, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, mais c'est notre nature humaine que d'avoir et de vouloir des chemins de raccourci qui nous évitent d'entrer dans une relation avec Dieu, avec Christ. Il n'y a pas d'autre évangile que cela. Il n'y en a pas d'autre. Mais on peut être tenté. Parce que la tentation, c'est de passer sur une bonne nouvelle qui semble apporter du plaisir, de l'assurance, une réponse. Parce qu'il y a un bénéfice, vous savez, à quitter la grâce pour se mettre sous le joug de la loi. Il y a un bénéfice, celui d'éviter la relation, celui aussi de se dire, bah, si je fais, voilà. Quand j'étais jeune, il y avait un pasteur qui s'appelait Émile Dallière qui a écrit un livre, ça parlait du dragon, c'était là des pratiques en Normandie, des pratiques ésotériques et autres qui imprégnaient le tissu normand profond et qui venaient même jusque, enfin c'était des restes qui venaient des vikings par exemple et qui avaient pénétré dans la foi chrétienne au point que dans l'église on avait des pratiques comme pour guérir il faut réciter l'Ave Maria ou la prière à Marie à l'envers, alors déjà à l'endroit je la connais pas mais à l'envers c'était plus compliqué et ça se pratiquait. Mais nous ne sommes pas loin de cela quand nous choisissons des moyens, des choses. Alors, je ne dis pas que certaines choses soient inspirées hein, quant à des choses qu'on ait à vivre et à faire, à condition qu'elles soient toujours dans le registre du cultiver, tisser profondément la relation avec Dieu. Tout le reste, qui ne serait que du systématique, n'a que peu d'intérêt, voire même peut-être dangereux. Face à la crise des Galates, Paul insiste sur le thème suivant, la foi en Christ libère des œuvres de la loi. La loi, c'est un pédagogue, dit Paul aux Galates, qui dénonce le péché. La loi dénonce le péché. Dès lors que Moïse a reçu la loi et l'a inscrite, elle était là pour dénoncer le péché et l'incapacité de l'homme à régler la question du péché. Il y avait un homme, il y a quelques décennies, 20-25 ans, qui a essayé d'obéir à toutes les lois de l'Ancien Testament. Il a fait ça, je crois, pendant 2 ou 3 ans, avant de proclamer que c'est impossible. C'est impossible d'être juste devant Dieu, puisque c'est ça la proposition, en obéissant à la loi. Elle était là comme un pédagogue pour dire et répondre à la question de la promesse qui avait été donnée à Abraham. La promesse donnée à Abraham, ce n'est pas une promesse qui a été donnée quant à l'observance de la loi pour devenir juste. La promesse qui a été donnée à Abraham, c'est qu'un jour, descendant de lui, viendrait celui qui accomplirait la loi et y apporterait la solution finale, définitive. C'est cela la promesse. Et elle a été accomplie en Jésus-Christ, pas dans la loi. Mais quand nous-mêmes, dit Paul, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et il revient bien au centre de cela. Si on vous propose autre chose qu'un évangile reposant sur la grâce, la gratuité, par l'œuvre accomplie à la croix, alors que celui-là soit anathème. Oh, c'est pas un mot qui est facile. Hein. A-N-A-T-H-E-M-E pour ceux qui ont du mal. Le H, on ne sait pas où le mettre. Anathème, ça veut dire un mot qui dit quelque part de rejeter suspendu. Qu'il soit rejeté, celui. Si même moi, dit Paul, je vous prêchais autre chose, ben rejetez-moi, mettez-moi au loin. N'ayez plus aucun rapport avec moi. Hein ? Quel évangile voulons-nous vivre ? Est-ce que c'est un évangile qui serait à nouveau teinté de la loi, de l'esprit de la loi, même si ce n'est pas la loi juive ? Quoique. Ou bien est-ce que c'est un évangile de grâce ? Au chapitre 2, verset 4, j'ai choisi quelques, pas forcément les versets que l'on retrouverait en lien entre Galates et Romains. Galates, c'est en quelque sorte la première grande épître qui pose le principe de la loi et de la grâce et qui va être développée dans l'épître aux Romains. Moi, je vous encourage, lisez l'épître aux Galates. Lisez-la. Vous avez les grands axes qui parlent de ce que nous avons à vivre dans notre relation avec Dieu. Et ensuite, le développement de l'épître aux Galates, c'est l'épître aux Romains. Et là, vous avez un enseignement en profondeur qui peut éviter de basculer dans nos comportements, dans nos réflexes humains, dans quelque chose qui n'a plus rien ou qui peut être, en tout cas, altéré le principe de la grâce. Au chapitre 2, verset 4, « Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Ceux qui sont passés derrière Pierre, ils sont venus en disant « Oui, mais l'évangile, c'est bien, mais il faut continuer quand même à observer telle chose. » Il faut encore avoir des obligations. Il faut que tu dois. La liberté pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Au niveau pastoral, on m'a souvent reproché à moi ou à Michel hein, ou à Francine et Catherine. Hein, on a souvent reproché de ne pas être assez rigide sur certains points, de ne pas respecter des lois et des règles. On peut penser de la place de la femme dans l'Église. Hein. J'y reviendrai juste rapidement, mais sur plein d'autres choses. Ah, comment vous pouvez-vous tolérer ? On a reçu des lettres, etc. Et le verset 5 de Paul, c'est de dire ceci. « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue par vous, parmi vous. » On peut penser que nous sommes, c'est le mot qui m'a été souvent adressé, laxiste. Qu'est-ce qu'on m'a dit en 40 ans que j'étais laxiste ? On l'a dit à Francis, on l'a dit à Michel, hein. Vous êtes laxiste, vous n'êtes pas assez rigoureux, etc. On peut faire des erreurs et certainement que nous en avons fait. Mais notre souci, c'est de ne pas céder non plus et de résister pour que la vérité de l'Évangile soit parmi nous. Et de ne pas imposer des lois et des règles qui seraient tellement plus simples, vous savez, en tant que pasteur. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Déjà, on évite la promiscuité, les doutes, les relations qui peuvent poser problème. Et puis, on peut faire des règles comme ça. Il y en a plein. La loi, dit Paul, n'a pas été là pour permettre à l'Esprit Saint d'être répandu. On a déjà pensé à ça ? Un homme qui obéirait à toute la loi, c'est pas pour autant qu'il serait baptisé du Saint-Esprit. Ah, la loi n'est pas prévue pour cela. Par contre, la foi en Jésus-Christ, au bénéfice de la grâce du salut qui est donnée à la croix, c'est cela qui permet à l'Esprit-Saint de venir dans l'Église et sur chacune de nos vies. Alors, laxiste, peut-être, on peut continuer à me dire que je suis laxiste. On peut le dire à ma femme, à Michel. Je crois que notre souci, c'est non pas d'être respectueux de lois et de règles, mais de savoir ce que l'Esprit veut dans une dispensation qui est celle de la grâce. La liberté, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Moi, j'espère que la liberté que nous avons est épiée par les autres. C'est-à-dire qu'ils regardent en se disant, mais comment ça se fait qu'elle vit comme cela ? Que ceux qui sont dans des mouvements enfermés comme ça se disent, mais comment ils peuvent se permettre d'être libres de cette manière ? J'espère que nous sommes épiés. Et même le monde. Ma grande tristesse en ce moment, au moment des élections américaines, c'est la place qui est donnée au mouvement évangélique américain, qui est un mouvement qui est fortement marqué par le légalisme. On peut ne pas être d'accord avec moi. Mais quand je vois ce qui est dit, journaux, télévision, tous les jours, de ce que sont les évangéliques, à partir de ces pratiques, de ces lois, de ces règles, je me dis, mais où est le message de Paul aux Galates ? Vous êtes libre. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire, dit-il, que vous avez une liberté à exploiter tous azimuts. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en Christ, vous êtes libre. Ces jours-ci, nous avons entendu parler beaucoup de la question de la liberté en France, après l'assassinat d'un professeur, Samuel Paty. Est-ce que notre pays est libre ? Est-ce que les chrétiens qui sont là sont prêts à dire « Nous, on reconnaît la liberté à ce monde de faire ses choix. Nous reconnaissons aux chrétiens, de quelque origine qu'ils soient, de faire leurs choix. Et nous n'avons pas à imposer notre conception de la liberté. » Je peux être choqué. Je peux être mal à l'aise avec des dessins, avec des caricatures. Mais pour autant, la liberté est un principe fondamental, inscrit à tous les frontons de nos mairies, sur des actes importants de la vie civile. Moi, j'estime que le monde a sa liberté. Mais est-ce que la liberté que nous avons en Jésus-Christ peut montrer, révéler quelque chose qui relève de la grâce que nous avons en Christ ? Moi, je ne me battrai pas pour interdire des caricatures. Je ne me battrai pas même s'il y en a qui insultent la Bible ou qui s'opposent à Christ. C'est dans la nature des choses. Mais est-ce que moi, la liberté que j'ai en Christ peut donner envie, montrer autre chose ? Est-ce que là, nous n'avons pas, comme dit Paul, à nous laisser épier par ceux qui sont opposés à Christ ? Pour qu'ils voient la liberté que nous avons en Christ. Même si leur but, c'est de nous asservir, comme dit Paul. Mais est-ce que je peux montrer un rapport à la liberté qui accueille l'autre, mais qui montre la liberté que j'ai en Jésus ? Je vais juste m'arrêter là. Au chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cette notion de liberté et de joug est très forte chez l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Quels sont les jougs sous lesquels nous nous mettons, personnellement, individuellement ? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous remarquez que ce verset-là n'est pas au présent, il est au passé. Il nous a affranchis. L'œuvre de la croix, elle est définitive, authentique, arrêtée. Il nous a affranchis. Il n'y a pas de remise en cause aujourd'hui. Il parle aux pensées, il dit « Christ nous a libérés ». Et Jésus, avant sa mort, dira ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous a libérés. C'est la mort et la résurrection. Nous qui sommes en Christ, nous sommes libres. Si du moins nous ne nous remettons pas sur des jougs. Alors, Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont été libérés et justifiés par Jésus. Et ils sont toujours dans certains liens qui les gardent captifs. Mais l'apôtre Paul dit bien ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Restons donc fermes. Entrons dans cette dimension de liberté. Une dimension qui est conduite par l'Esprit Saint. La loi ne donne pas, ne permet pas l'accueil de l'Esprit Saint. Elle ne permet que de pointer ce qu'est le péché. Mais l'œuvre de Jésus-Christ, la grâce qui nous est faite dans l'œuvre de la croix, permet à l'Esprit Saint aujourd'hui de vivre notre liberté. De vivre notre liberté. Ne nous mettons pas sous des jougs. Là où est l'Esprit, dira-t-il plus loin, là où est l'Esprit, là est la liberté. Amen. Là où est l'Esprit, un esprit qui est en rapport avec l'œuvre de la croix et la grâce de Jésus-Christ. Amen.